l'atelier du pouvoir.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question « Mais qu'est-ce qui vous légitime ?»
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux.
La France.
Dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue.
C'est pas la gauche.
Pourquoi pas de la fête.
La France.
Et de la liberté.
C'est pas la droite. La France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer.
La politique, dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vider.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vider, bonjour à tous.
Bienvenue dans ce nouvel Atelier du Pouvoir, l'émission qui chaque samedi de 12h50 à 13h30 sur France Culture vous propose un autre regard sur la vie politique, son histoire, ses rituels, ses institutions, ses figures aussi. Alors vous le savez, ces jours-ci, Radio France est partenaire des 10 ans du musée du Quai Branly, 10 ans déjà, une institution, la dernière en date jusque-là, à symboliser ce qui a longtemps été considéré comme une singularité française. Je veux parler ici de cette politique des grands travaux présidentiels qui exprime, disons, à la fois un certain rapport de l'État français à la culture et une modalité singulière du pouvoir de l'homme d'État que l'on peut résumer ainsi, en paraphrasant Pierre Mendès France, « Gouverner, c'est bâtir, mon cher Vincent ».
Griffer le temps, voilà une autre expression qui était utilisée par François Mitterrand lorsque Bernard Pivot l'interrogeait en avril 1995 dans sa mythique émission Bouillon de culture, intégralement consacrée aux grands travaux. Et c'est ainsi donc qu'il résumait son ambition dans la réalisation des grands travaux débutés en 1981 avec la transformation du Grand Louvre. Marquer son époque, changer la structure d'une ville ou d'un pays, ce fut longtemps une spécificité de la Ve République que de voir ses présidents laisser leur empreinte dans la vie culturelle et l'urbanisme français, et en particulier parisien. Centre Pompidou pour le président du même nom, Institut du Monde Arabe lancé par Giscard, nombreux grands travaux sous François Mitterrand, l'Opéra Bastille, l'Arche de la Défense, le Grand Louvre, entre autres, jusqu'au musée du Quai Branly dont nous célébrons, vous l'avez dit Thomas, le 10e anniversaire cette année, sous la présidence de Jacques Chirac. On notera que nos deux derniers présidents n'ont pas réussi ou pas voulu faire de même et inaugurer eux-mêmes un grand projet, indiquant un changement d'époque et d'état d'esprit de l'opinion qui voit d'un plus mauvais œil ces dépenses somptuaires parfois difficiles à justifier. Se pencher sur les grands projets culturels des présidents, c'est à la fois réfléchir au rôle passé de la culture dans notre vie publique, mais c'est aussi interroger ce pouvoir présidentiel quasi monarchique qui avait par ailleurs valu à François Mitterrand le surnom ironique de « Tonton Camon ». À quoi servent les grands projets? Comment sont-ils décidés et pourquoi? Pourquoi cette tendance semble-t-elle passer de mode? On en parle aujourd'hui avec nos invités dans cette nouvelle édition de l'Atelier du Pouvoir consacrée aux grands projets culturels des présidents à l'occasion du 10e anniversaire du Quai Branly.
Robert Lyon est avec nous. Il a été dans les années 1980 directeur de cabinet de Pierre Mauroy à Matignon, patron de la Caisse des dépôts et consignations, puis une des chevilles ouvrières de l'Arche de la Défense. Autrement dit, un témoin de premier plan de la grande époque de ces grands travaux présidentiels qu'a incarné François Mitterrand. À vos côtés, universitaire, c'est le principe de l'émission, l'historien Laurent Martin, professeur d'histoire à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, auteur de travaux de référence sur l'histoire des politiques culturelles sous la Ve République et notamment sur la politique culturelle de Jack Lang. Et puis pour notre séquence internationale, dans une grosse vingtaine de minutes, nous irons aujourd'hui dans un pays que nous n'avons pas encore eu le loisir d'explorer dans l'Atelier du Pouvoir. Ce pays, c'est le Kazakhstan et pour cela, nous accueillerons Adrien Fauve, qui est docteur en sciences politiques associé au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, le CERI, où il coordonne les activités du groupe de recherche sur l'Asie centrale.
J'avais la conviction qu'il fallait que le musée du Louvre, car il s'agit de ça, devint un lieu où l'on aimerait aller voir les œuvres admirables qui s'y trouvent. Et il n'y avait pas moyen. Ça faisait déjà longtemps avant d'être président de la République que je me disais, ça va pas. Cette cour Napoléon où nous sommes, ce square avec ses arbres lépreux, cette espèce de parking fou. La nuit, je pense qu'on devait hésiter à s'y promener, noir. Tout ça pour ce beau musée, à côté de ce beau musée, il fallait changer. Je crois que seul un président de la République dispose du temps, 7 ans, qui permettent de décider, d'entreprendre et de mener à bien. Si on disait qu'il y a un style Mitterrand, j'en serais flatté, je l'avoue. Mais il n'y en a pas, car l'ensemble des grands projets relève du choix de jurys internationaux ou nationaux. Et si en effet j'ai pris part à la décision, et même si j'ai pris la décision finale, dans chaque cas, c'est aussi parce que j'avais un certain goût pour les formes géométriques pures. Je crois que les formes pures et simples me plaisent plus que les autres. C'est une forme déterminante du pouvoir. Et pour avoir, dès mon adolescence, puisque j'étais étudiant à Paris, pour avoir beaucoup circulé, je me suis beaucoup promené dans Paris. Dans ma tête, c'est vrai, à tout moment, je rebâtissais. Bon, je ne pensais pas que j'en aurais l'occasion. Mais quand j'en ai eu l'occasion, je ne l'ai pas raté.
François Mitterrand, lors de l'inauguration du Grand Louvre, c'était le 4 mars 1988. Il était interrogé par William Lémergie et Patricia Charnelet. Ça nous ramène à une autre époque. Bonjour Robert Lyon.
Bonjour.
Bienvenue dans l'Atelier du Pouvoir, bienvenue sur France Culture. Je vous voyais écouter avec une certaine émotion, peut-être une certaine nostalgie, les paroles du président Mitterrand à l'époque. On a quand même l'impression que c'est une toute autre époque, cette époque du président bâtisseur qui, tel un démiurge, comme ça, raconte comment il redessine la ville, la capitale de la France.
Vous dites très bien les choses, c'est vraiment l'œuvre d'un homme. On parle en tout cas du paquet des grands projets de l'époque François Mitterrand, effectivement, c'est sorti par un mélange d'intuition et d'ambition, comme vous l'avez dit. C'est sorti de sa tête, sans être bien entendu dans les fameuses 110 propositions de la gauche à l'époque, avec une fermeté, un effet de surprise.
Pourquoi un effet de surprise?
Je pense en particulier à ce qui concerne la première étape du projet sur lequel on vient d'entendre le président Mitterrand, c'est-à-dire le Grand Louvre. Au cours d'une conférence de presse qui devait se situer en septembre 1981.
24 donc, septembre, absolument, oui.
Voilà, je ne me trompe pas trop. Il a annoncé à la surprise générale. Moi, j'étais devant ma télévision, je connaissais pas mal de choses de ce qui se passait dans le gouvernement. J'étais très surpris, mais j'ai vu aussi la surprise angoissée sur le visage d'un ministre des Finances de l'époque qui s'appelait Jacques Delors et auquel le président de la République, annonçant que le Louvre allait être rendu à la, pour sa totalité à la fonction musée et que donc le ministère des Finances, qui était à ce qu'on appelait à l'époque à Rivoli, allait déguerpir, quitter les lieux. Surprise. Magnifique surprise.
Si on revient un peu à votre rôle, Robert Lyon, vous étiez à l'époque directeur de cabinet de Pierre Mauroy, et vous avez fait aussi partie de ce qu'on a appelé le groupe des quatre, et qui a eu joué un rôle tout à fait particulier dans l'élaboration de ces grands travaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot?
Ouais, c'est un groupe assez informel. Je dirais qu'il s'est ensuite un peu formalisé avec une structure permanente pour conduire les projets que le président Mitterrand avait constitué autour de lui. Il y avait au premier chef Jacques Lang, il y avait un conseiller culturel merveilleux à l'Élysée qui s'appelait Paul Guimard, il y avait le ministre de l'équipement de l'époque, c'était Quillot ou Quillès, et puis effectivement moi j'étais dans le coup parce que pour diverses raisons j'avais marqué déjà mon intérêt sur le sujet. Et on a rencontré le président de la République, je dirais une grande cadence, au moins une fois par mois pendant 4 ou 5 ans, notamment au début, pour la conduite, le choix des projets. Juste une image, à un moment, on savait qu'on devait mettre un conservatoire, une cité de la musique quelque part, un opéra ailleurs, le ministère des Finances où ? Et on a joué comme ça, d'une façon fabuleuse, entre la Défense, Bercy, la Villette. Donc vraiment, des décisions étaient prises dans le bureau du président.
Laurent Martin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien des politiques culturelles, vous connaissez bien tous ces grands travaux, mais si on essaye de sortir de la singularité seulement des projets mitterrandiens, est-ce que vous pourriez dire que tous les présidents de la République ont eu des grands travaux culturels. Est-ce que ça a pris à chaque fois la même forme ou pas ?
Non, pas du tout. Il y a quand même une amplification à partir de Pompidou. En fait, c'est Pompidou qui lance le premier vrai grand projet culturel avec le centre qui portera son nom. Giscard amplifie le mouvement avec pas moins de 3 grands projets qu'il lance et dont il ne verra pas l'achèvement en tant que président, puisqu'ils ne sont pas achevés au moment où il doit céder la place à François Mitterrand.
Il y a quoi ? L'Institut du Monde Arabe ?
L'Institut du Monde Arabe, le Musée d'Orsay, et la Cité des Sciences de la Villette, qui sera donc complétée effectivement avec une Cité de la Musique. La Cité de la Musique qui était annoncée dans le programme du candidat Mitterrand, avec l'autre grand projet qui était l'exposition universelle, qui ne verra pas le jour, comme on sait, pour des raisons notamment de lutte avec la mairie de Paris. Mais effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Robert Lyon, il y a un effet de surprise considérable, et un effet aussi qui montre d'une part la personnalisation du pouvoir, puisque c'est François Mitterrand qui annonce ses projets et qui les revendique, dont il revendique la paternité, et deuxièmement l'effet de centralisation aussi, puisque la plupart de ces projets sont créés à Paris. Or la gauche était arrivée au pouvoir avec un programme extrêmement décentralisateur, donc il y a un effet surprise. Effectivement considérable.
Alors justement, sur ce que ça dit d'un certain rapport au pouvoir et de la façon dont le pouvoir exécutif en France se structure, je voudrais vous faire écouter René Raymond, l'ancienne figure tutélaire de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, qui analysait avec son point de vue de spécialiste de sciences politiques ce que disaient ces grands travaux du pouvoir de la Cinquième. Il était l'invité de France Inter le 30 mars 1995.
C'est vrai que c'est monarchique. Est-ce que c'est une dérive ? C'est vrai qu'au regard d'une interprétation sourcilleuse de la démocratie, on peut s'étonner que des opérations d'une telle ampleur et qui engagent tant de crédits, en définitive, ne soient décidées que par le chef de l'État et... Je dirais pas que c'est soustrait au contrôle des assemblées, mais en définitive, la démocratie représentative a peu son mot à dire, et qu'effectivement, il y a là un problème délicat. Cela dit, on peut se féliciter de l'accomplissement de ces grandes entreprises, mais c'est vrai que ça met un peu en cause le fonctionnement des pouvoirs, l'exercice du contrôle par la représentation nationale. En fait, c'est beaucoup plus du domaine réservé presque que la politique étrangère. Le projet de la bibliothèque qu'inaugure aujourd'hui le président, le coup d'envoi est donné il y a 6 ans à peine et l'opération est presque achevée. La Grande-Bretagne, où le régime est plus parlementaire, voilà 25 ans qu'on attend l'achèvement de Saint-Pancras.
Robert Lyon, on vient d'entendre René Raymond qui montre un certain nombre de paradoxes de ces grands travaux. Alors, est-ce que c'est un symptôme pour vous qui avez participé comme observateur, comme acteur de cette époque? Est-ce que c'est un symptôme finalement d'une dérive monarchique, sans contrôle du Parlement, coûteuse? Ou est-ce que c'est au contraire l'occasion de faire des choses, ce qu'on ne pourrait pas faire s'il y avait trop de contrôle?
Moi, je m'élève contre le côté non démocratique. C'est effectivement la volonté du chef de l'État du moment qui s'est affirmé sur ce créneau d'une manière exceptionnel, même s'il y a eu un peu d'action dans ce sens de tel de ses prédécesseurs ou successeurs, mais il y avait un contrôle parlementaire sur les crédits, une fameuse enveloppe de 14 milliards de francs qui passait chaque année devant le Parlement et que le ministre des Finances de l'époque, de Delors à Bérégovoy, essayait en permanence de raboter ou au contraire d'utiliser pour faire d'autres choses que les grands projets. On pourrait raconter l'histoire là-dessus. Il y avait le contrôle du maire de Paris, qui s'est élevé, qui a cassé le projet de l'Opéra de la Bastille, par exemple, qui l'a réduit à plus petite dimension. Et puis, il y avait un contrôle de l'opinion. Il y a eu une polémique sur la pyramide du Louvre. Tout le monde sait bien ça. C'est pas du tout une action monarchique au sens négatif du terme. Ce que j'apprécie, moi, c'est la capacité de prendre des décisions difficiles et de faire en sorte que, là, peut-être que j'ai joué un petit rôle, que ces décisions soient exécutées très vite. Vous avez parlé du temps. Nous avions 2 échéances dans cette affaire. La première, c'était les élections législatives de 86. Il y avait un pressentiment qui a été confirmé que la droite reviendrait au pouvoir. Et moi, j'étais en charge de la Grande Arche à l'époque. Entre autres choses, je dirigeais aussi la Caisse des dépôts. Et j'avais la consigne de rendre le projet, c'est la bouche du président qui parle, irréversible. Deuxième échéance, le 14 juillet 89.
Le bicentenaire
de la Révolution française, nous avons inauguré 3 des grands projets, dont celui dont je m'occupais, c'est-à-dire la Grande Arche, je dirais la veille au soir, en se disputant les corps d'État secondaires entre la Bastille et la Défense, pour que leur mise en œuvre soit le 13 juillet au soir à l'Opéra de la Bastille, avec 35 chefs d'État réunis autour de François Mitterrand, et le lendemain 14 juillet, le sommet de l'Arche, à l'Arche de la Défense. On n'a pas raté ces échéances. On a peu dérapé en termes budgétaires et on n'a pas dérapé en termes de calendrier.
Laurent Martin, par rapport à ce que dit Robert Lyon, vous, l'historien des politiques culturelles, quel sens, quelle signification portent ces différents grands travaux? On a parlé là à l'instant évidemment de la marque monarchique, c'est un instrument de pouvoir, François Mitterrand le disait. Mais est-ce que derrière il y a un sens politique, j'ai presque envie de dire idéologique, le fait de vouloir faire un opéra dans l'Est de Paris? Il a souvent été dit que c'était justement pour donner une valeur culturelle à cette partie de la capitale qui en manquait. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de général effectivement sur ces différents grands travaux et sur leur signification?
Il y aurait beaucoup de choses à dire en un temps très court. Pour ce qui est par exemple de l'Opéra Bastille, il est clair que c'est une opération effectivement qui a une forte dimension idéologique et historique, puisque c'est pas seulement l'Est parisien, c'est la place de la Bastille. Et l'idée, c'est d'implanter un opéra qui a évidemment une dimension de pratique culturelle extrêmement élitiste dans un lieu qui symbolise la Révolution française. Donc il est bien clair que si on implante l'opéra à cet endroit-là, c'est pour lui donner une dimension idéologique et historique forte. D'ailleurs, dans un premier temps, l'opéra devait être, si je ne m'abuse, inscrit dans le projet de la Cité de la Musique. Donc le fait qu'il ait été transporté à la place de la Bastille a une forte signification. Pour dire les choses plus largement, et je rebondirai un petit peu sur ce qu'a dit Robert Lyon, effectivement, la dimension temporelle est très, très importante. Et une double dimension. C'est-à-dire qu'à la fois, le président a la durée pour lui. Il a 7 ans devant lui, voire 14 s'il brigue un nouveau mandat. Donc il a cette dimension de le seul finalement dans l'appareil gouvernemental à pouvoir voir loin en quelque sorte. Et en même temps, François Mitterrand, on le voit notamment dans tous les courriers que lui adresse Jacques Lang et que lui font également d'autres ministres, il y a cette dimension de l'urgence. Il faut finir les projets très vite pour effectivement les échéances qui ont été indiquées par Robert Lyon, au risque d'ailleurs d'une certaine précipitation. Vous parliez de l'Opéra Bastille, j'y reviens, il est effectivement inauguré le 13 juillet, mais c'est pour fermer ses portes quasiment immédiatement parce qu'il n'était pas prêt en réalité.
Ça a quand même marché le 13 juillet au soir.
Oui, ça a marché le 13 juillet au soir, mais n'empêche que l'ouverture au public a été retardée. Parce qu'il y a évidemment, c'est l'occasion pour le pouvoir de manifester avec éclat son action.
Alors justement, je voudrais revenir sur cette idée, cette critique qui a été faite du choix du prince. Est-ce que dans la réalisation des grands travaux, pas seulement ceux de François Mitterrand, on peut parler du Centre Pompidou, on peut parler de l'Institut du Monde Arabe et même bien sûr du Quai Branly, puisque c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Est-ce que c'est un fait du prince? Est-ce que le président choisit tel ou tel type de musée? Ou est-ce qu'il y a des gens qui décident avec lui? On sait que Robert Lyon faisait partie d'un groupe de hauts fonctionnaires qui supervisaient les opérations, mais on a l'impression quand même que c'est Mitterrand qui prend toutes les décisions.
C'est pas exactement le cas. Mitterrand a effectivement pris beaucoup de décisions. Il le dit d'ailleurs dans l'archive qu'on a entendu. La décision finale lui est souvent revenu. Mais souvent aussi, il y a eu des concours nationaux ou internationaux. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, vous parliez de l'Arche de la Défense, ça a été un concours international. Pour l'Opéra Bastille, ça a été également un concours international. D'ailleurs, François Mitterrand a toujours dit à mot couvert qu'il n'avait pas complètement approuvé le choix qui avait été fait finalement du Canadien Carlos Haute. Dans quelques cas, là, il y a vraiment une intervention directe, personnelle et qui s'impose à tous. Je pense notamment à la pyramide de Pei. Là, c'est clairement un choix de François Mitterrand qu'il a imposé envers et contre tous, y compris contre la polémique qui s'est développée, notamment dans un certain secteur de l'opinion animé par notamment Michel Guy, etc. Il a imposé sa décision. Voilà.
Robert Lyon, je reviens à la question que je posais tout à l'heure à Laurent Martin. Il a répondu sur l'Opéra Bastille, mais sur les autres projets, le Grand Louvre, la Villette, l'Arche de la Défense. Quelle était vraiment la signification politique de ces grands projets, au-delà de leur caractère monumental?
Je pense un repère à la fois dans l'espace et dans le temps. Il n'y a pas photo pour l'Arche de la Défense. Ce jalon sur l'axe historique de Paris, commencé au temps de le nôtre et même sans doute avant, avec une sorte de clin d'œil à l'autre magnifique grand projet qui était donc, comme vous venez de le dire, la pyramide du Louvre, la régénérescence du Louvre, la promotion du Louvre qui était effectivement très bas en termes d'apparence et de tenue avant les grandes décisions Mitterrand. C'est un repère dans l'espace, et je pense qu'il avait aussi l'idée de poser des repères dans le temps.
Griffer le temps,
c'est-à-dire laisser, en effet, des marques, comme beaucoup des prédécesseurs chefs de l'État ont à travers les siècles, on ne va pas faire de grands discours, laisser des marques quasiment indélébiles. On pense au Louvre, quelles que soient les péripéties de son histoire. Donc une grande ambition géographique et spatiale.
On va un peu revenir sur cette polémique paye, mais surtout sur les polémiques qui ont entaché l'élaboration de ces grands travaux. Mais avant cela, j'aimerais vous faire écouter quelqu'un qui a critiqué une dimension des grands travaux. Il n'a pas forcément critiqué l'ensemble du projet, mais il critiquait leur parisianisme. Et c'est Dominique Baudis dans l'émission Arrêt sur image sur France Culture. C'était le 30 septembre 1984.
Il est tout à fait légitime qu'un certain nombre de grandes réalisations architecturales marquent une époque et laissent un témoignage pour les générations à venir. En revanche, je trouve tout à fait regrettable, au moment où on parle beaucoup de décentralisation, où elle se met en œuvre dans le domaine administratif ou dans différents domaines, que ces grandes opérations destinées à marquer la fin du XXe siècle aient été, une nouvelle fois, comme toujours dans notre histoire, concentrées sur la capitale. Si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens, la République fédérale, l'Espagne, qui est tout proche de Toulouse, on s'aperçoit qu'il y a de grandes métropoles, de grandes villes très significatives qui pèsent leur poids à l'intérieur de la communauté nationale et qui sont traitées comme telles.
Dominique Baudis, qui était maire de Toulouse et qui donc critiquait le parisianisme des grands travaux en disant qu'après tout, François Mitterrand, qui avait fait les grandes lois de décentralisation, avait été très parisien dans sa politique de grands travaux, Laurent Martin.
C'est à la fois vrai et faux, comme toujours, quand on fait des jugements un peu schématiques. En termes budgétaires, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enveloppe des grands travaux, c'est entre 15 et 30 milliards, selon les calculs.
De francs.
De francs. Et le plus grand des grands projets de région ou de province, le musée de Grenoble, si je ne m'abuse, c'est 150 millions. Donc effectivement, là, on est dans des échelles très différentes. En même temps, ce qu'il faut voir, c'est deux choses. D'une part, effectivement, à mon avis, et selon l'avis d'autres observateurs, il y a une légitimité à installer ou à créer de grands équipements culturels pour assurer le rayonnement de Paris et sa place dans la hiérarchie mondiale des capitales, parce qu'effectivement une grande capitale à l'échelle mondiale se doit d'être dotée de ce type d'équipement.
Absolument.
En termes de rayonnement culturel, en termes de retombées économiques par le tourisme, etc. etc. Et d'autre part, il y a eu un effet d'entraînement quand même considérable en région grâce à la politique impulsée par le ministère et par l'Élysée.
Robert
Lyon.
Oui,
l'Opéra de Lyon, le Carré d'Art à Nîmes, les équipements récents à Marseille, tout ça c'est dans la foulée d'un renouveau à la fois de qualité architecturale, d'ouverture à des architectes étrangers et d'innovation. Et pour la construction en France dans son ensemble, le grand programme de François Mitterrand, dans la foulée d'ailleurs du Centre Pompidou, qui est une grande audace, un grand génie architectural, qui a été choisi par un jury sous Giscard vers 74-75, dans la foulée de cet événement architectural, tout cela a relevé l'ambition et la qualité de la construction dans notre pays.
Alors, mais il ne faudrait pas s'en tenir quand même aux travaux de la période Mitterrand, puisqu'il y a eu des travaux avant, des travaux après. On a le sentiment quand même qu'il y a une particularité, une sorte de visibilité particulière de la période Mitterrand, mais qu'avant, les travaux sont exclusivement parisiens. Les projets culturels présidentiels, ils n'existent pas ailleurs qu'à Paris.
Ah oui, et pas grand-chose en province.
Rien du tout en province.
Oui. Oui, tout à fait. Et là, de ce point de vue-là, on peut faire crédit à ce gouvernement Mitterrand-Lang, si l'on peut dire, d'avoir pensé justement à la région. D'ailleurs, c'était un des engagements du candidat Mitterrand que de réensemencer, ça c'est un terme très langien aussi, réensemencer la vie culturelle en province, et y compris donc avec effectivement des équipements culturels. L'aménagement culturel du territoire, c'est une dimension très importante de cette période.
Robert Lyon, puisqu'on a la chance de vous avoir parmi nous, et vous qui avez travaillé avec tous ces hommes, est-ce que vous pouvez nous dire, 30 ans ou 35 ans plus tard, si à l'intérieur de l'équipe de François Mitterrand, du gouvernement, etc., il y avait des débats sur la nature de ces grands travaux? Est-ce que tout le monde était finalement d'accord pour les faire? Est-ce que ça discutait beaucoup du fond, de la forme? Enfin, comment ça se passait?
Non, il n'y avait pas un énorme débat à l'intérieur du gouvernement ou de l'ensemble du pouvoir. François Mitterrand a fait partager, on peut peut-être dire imposé, mais pour moi ça n'a pas été désagréable, ça n'a pas été violent, sa vision et son ambition. Et il y avait au contraire, pour les quelques personnes qui s'en occupaient, Jacques Lang au premier chef, quelques autres, un enthousiasme positif. Alors on discutait des modalités, je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on met l'opéra à la Villette, vous l'avez évoqué, ou à la Défense, ou à la Bastille? Le maire de Paris tirait beaucoup pour la Bastille parce que il y avait le rééquilibrage à l'Est. Mmh. Même chose pour le ministère des Finances, qui est aussi un des grands projets de l'époque, à Bercy, tiré vers l'Est. Il y avait des débats de ce type, mais sur l'ambition du programme, la nécessité de le conduire d'une main ferme, d'accélérer les travaux, il y avait un grand accord de la part de tous ceux qui avaient voix au chapitre.
Juste une question très rapide, Laurent Martin, vous avez dit 15 à 30 milliards de francs. À l'époque, c'est beaucoup ? Est-ce que c'est discuté aussi ce chiffre?
C'est discuté. Il y a des débats, enfin il y a des contestations en tout cas très claires
à l'Assemblée,
etc. Et la droite en fait un cheval de bataille. Clairement, Jacques Chirac notamment parle de dépenses somptuaires, effectivement.
Dans le style de Baudis.
Oui, tout à fait. Donc il y a une contestation qui est menée. Et ce qui est un peu curieux et dommage, je trouve, y compris dans les gens qui ont travaillé sur ces questions, on invoque toujours le coût des grands travaux sans jamais invoquer les retombées positives des grands travaux. Si on devait les comptabiliser, on s'apercevrait certainement que ce coût a été très largement compensé par les retombées en question.
On pense au Louvre en particulier. Exactement. Qui attire des foules qu'il n'était pas question de faire venir dans le Louvre ancienne manière.
Ouais. Alors on va vous retrouver dans un instant, Robert Lyon et Laurent Martin, mais tout de suite vous allez voir qu'il y a beaucoup plus monumental que les grands travaux de François Mitterrand. On va au Kazakhstan. Tout de suite, c'est la séquence internationale de l'Atelier du Pouvoir.
France Culture, l'Atelier du Pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Dans notre réflexion sur les grands projets culturels des présidents de la République, nous avons voulu, cette semaine, vous emmener dans un pays dont on ne s'attendrait pas a priori qu'il accueille de tels projets. Je veux parler du Kazakhstan. Dans ce pays, le président Nursultan Nazarbayev entreprend depuis plusieurs années la transformation de sa capitale Astana. En 2014 a été inauguré l'un des plus grands musées d'art contemporain du monde, le Musée national de la République du Kazakhstan. Pour parler de ces enjeux, de ces grands projets, de leur impact dans le système politique kazakh et du rôle de la culture en contexte autoritaire, je reçois aujourd'hui Adrien Fauve. Bonjour Adrien Fauve.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur associé en sciences politiques aux séries à Sciences Po, auteur d'une thèse de doctorat sur le Kazakhstan, l'urbanisme au Kazakhstan, et que vous coordonnez les activités du groupe de recherche sur l'Asie centrale. Vous avez notamment publié Astana, politique et architecture au Kazakhstan et géopolitique de l'Asie centrale avec Julien Torres et Sophie Orman aux éditions Ellipse en juin 2015. Alors première question, elle porte vraiment sur quels sont-ils ces grands projets au Kazakhstan aujourd'hui ?
Alors ça s'inscrit dans le développement de la capitale essentiellement, même si ça peut concerner d'autres villes. Nouvelle capitale Astana qui est devenue le centre politique du pays depuis 1997. Bon alors dans cette perspective, c'est vrai que le musée national de la République du Kazakhstan, dont on a parlé depuis tout à l'heure, il est là pour valoriser un programme qui est celui de la mise en avant de l'héritage culturel du pays. Donc ça, c'est important. Mais bien sûr, il n'y a pas que les équipements culturels. Il y a un ensemble de politiques de modernisation dans ce pays qui a consisté à mettre en place les nouveaux quartiers du pouvoir, donc évidemment les ministères, un certain nombre d'autres équipements qui sont des grands magasins, etc., un aéroport, moderniser les infrastructures ferroviaires, etc., et aussi les infrastructures récréatives comme les stades et les équipements sportifs.
Mais est-ce qu'il y avait une spécificité culturelle avant Nazarbayev, ou c'est Nazarbayev qui imprime sa marque culturelle sur le Kazakhstan?
Ah oui, bien sûr, il imprime une marque culturelle dans la mesure où, depuis que le pays est indépendant en 1991 et qu'il a toujours le même président, qui est celui dont on parle donc depuis tout à l'heure, depuis 25 ans qu'il est en place, il y a bien sûr un travail sur la formation d'une identité nationale qui permettrait de distinguer la population de ce pays, de ses voisins et des autres pays du reste du monde. Donc là, on se place bien sûr dans une politique nationaliste assez classique, comme le montrent les grandes théories du nationalisme, où là, justement, on crée aussi bien une grande politique culturelle, qu'on promeut la langue de la nationalité titulaire. Et donc là, les grands projets s'inscrivent dans ces différentes politiques culturelles de promotion d'un héritage historique.
Alors ces grands projets, par exemple, on parle du musée national de la République du Kazakhstan. Qu'est-ce qu'il y a dans ce musée de particulier ? En quoi il promeut l'identité culturelle kazakh ?
D'abord, il est grand par ses volumes, 74 000 mètres carrés, si je ne me trompe pas, qui sont dans une certaine mesure assez difficiles à remplir, avec un certain nombre de salles qui sont liées aux différentes périodes historiques, et en particulier l'art contemporain, dont on a parlé d'ailleurs récemment aux séries. Le problème, c'est que la programmation muséale est assez erratique, et donc il y a une tension, en fait, entre l'activité des artistes qui sont promus par le gouvernement pour mettre en avant une vision officielle de l'héritage culturel, et puis les autres artistes qui problématisent les tensions fondamentales de la société kazakhstanaise, c'est-à-dire les tensions entre les urbains et les ruraux, les russophones et les kazakhophones, les jeunes et les moins jeunes. Tout ça, évidemment, crée des tensions pour la programmation de ce musée.
Alors justement, ces projets, ces grands projets culturels, ces grands musées par exemple, comment est-ce qu'ils sont accueillis par la population kazakh et par le milieu culturel ?
Chaque nouvel équipement attire son lot de visiteurs à chaque fois qu'il est inauguré. En général, lorsqu'il y a des grandes dates commémoratives, des grands événements qui sont bien choisis dans le calendrier, on parlait tout à l'heure du bicentenaire de la Révolution, on a le même genre de logique calendaire. Donc ça attire la population quand il est ouvert. Et ensuite, le problème, c'est de fidéliser les visiteurs grâce à une programmation qui va attirer des publics variés. Alors, j'ajoute qu'Astana étant une ville particulièrement internationalisée depuis qu'elle est devenue capitale, c'est aussi intéressant pour les gens qui y habitent parce qu'ils représentent des grandes compagnies étrangères ou bien qu'ils sont diplomates. Ils ont envie certainement d'aller visiter ce genre d'équipement.
Mais finalement, qu'est-ce que ces grands projets culturels nous disent du système politique kazakh et de son évolution ?
Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un système politique qui est un autoritarisme modernisateur, qu'on a vu par exemple à Singapour ou dans d'autres pays du monde. La spécificité, je pense que d'abord qu'il y a une centralisation du pouvoir dans la capitale, hein, et puis une personnalisation très forte. Alors on parlait tout à l'heure de la figure quasi monarchique de Mitterrand. Les grands travaux et en règle générale l'urbanisme dans l'histoire moderne et contemporaine est quand même lié à des personnalités de gens qui gouvernent. Donc ça, c'est assez important. Et puis, face à la diversité ethno-démographique du pays, puisque vous avez aujourd'hui les Kazakhs qui représentent 53%, les Russes à peu près 23% et d'autres différents groupes nationaux, la nécessité de bâtir cette politique culturelle, elle passe par la promotion d'un héritage qui devrait être commun. Donc c'est de ce point de vue, ça nous dit des choses sur le système politique.
Et cet héritage commun, finalement, ça fonctionne ou ça fonctionne pas ? Est-ce que ce pacte qui essaie d'être mis en place par les projets culturels fonctionne ?
Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation économique du pays, il y a quand même un certain nombre de failles. On le voit bien par les actions collectives qui sont menées par les citoyens. Je ne sais pas si la politique culturelle est le meilleur ciment sociétal dans ce pays.
Alors, on vient d'écouter Adrien Fauve. Merci Adrien Fauve pour cet éclairage sur le Kazakhstan. Bon, ce pays où les projets monumentaux continuent. On a l'impression en France, par comparaison, que depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus grand-chose. Laurent Martin, finalement, le dernier exemple en date, c'est le Quai Branly. Dont nous fêtons aujourd'hui les 10 ans.
Oui, il y avait quand même un grand projet de l'ère Sarkozy qui était cette maison de l'histoire qui a capoté. Il a capoté et c'était un projet de toute façon très modeste, hein, 80 millions d'euros dans mon souvenir. Donc effectivement, les deux derniers présidents n'ont pas souhaité relancer de grands projets. La raison d'abord est budgétaire. Il faut dire que dans une période de crise économique, de crise budgétaire très très forte, les présidents n'ont pas forcément les marges de manœuvre pour lancer de grands projets. Quand on regarde aussi le poids de ces grandes institutions en termes de fonctionnement et de part de ces grandes institutions dans le budget du ministère de la Culture, effectivement, là, on a des institutions qui pèsent très lourd et qui grèvent le budget de ce ministère. Donc, effectivement, les présidents n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de relancer des grands projets.
Robert Lyon, je vous voyais ne pas être d'accord quand Laurent Martin disait qu'il n'y avait plus de grands projets.
Je veux pas défendre ni Chirac ni le président actuel François Hollande, mais il y a quand même eu la Philharmonie qui est un très beau, c'est l'achèvement. Je suis d'accord. On peut la paternité remonte à l'époque Mitterrand. Et il y a aujourd'hui quelque chose de bien intéressant qui se réalise à la porte de Clichy, qui est le nouveau palais de justice réalisé par l'architecte Renzo Piano, qui s'est déjà illustré à Paris avec le Centre Pompidou. Donc c'est pas complètement désert. C'est évidemment pas la grande ambition de l'époque dont nous avions parlé.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment tous les deux que finalement ces grands projets ils sont passés du plan national au plan plus local, au plan des métropoles, au plan des grandes villes? Est-ce que c'est pas là aujourd'hui que se joue une ambition de grands projets culturels, des fois ou pas? Laurent Martin?
Oui, sauf que dans le système français, en tout cas le système de la Ve République, on ne peut pas imaginer de grandes politiques culturelles et notamment de grandes politiques d'équipement culturel sans une impulsion venue d'en haut, c'est-à-dire venue de l'Élysée, même
du ministère. Mais par exemple, le MUCEM à Marseille, il n'y a aucune intervention du président de la République française.
Oui, c'est vrai. En même temps, il y a une intervention quand même du ministère de la Culture, puisque la grande partie des collections du MUCEM viennent de l'ancien Musée National des Arts et Traditions Populaires. Donc il y a eu quand même une politique pilotée par le gouvernement pour redistribuer les collections ethnographiques en France. Donc le MUCEM n'est pas uniquement une opération locale. D'ailleurs, le financement en partie est un financement national. Hein. C'est pas uniquement la ville de Robert Marseille ou la région.
Robert Lyon.
Si vous me permettez, je voudrais ajouter deux choses. Revenant à la période Mitterrand, la grande expérience Mitterrand, je voudrais souligner, on l'a pas assez dit, que ça a été une démarche à la fois monarchique, venant d'en haut, mais très bien organisée.
D'un point de vue administratif, vous voulez dire?
D'un point de vue administratif. Il y a eu une mission des grands projets, dirigée principalement par Yves Dauge, qui a mis de l'ordre dans ce grand programme, sous un contrôle étroit du ministère des Finances, qui n'était pas toujours très heureux de voir ces sommes effectivement dépensées, alors que beaucoup pensaient au ministère des Finances que tout ça serait une utopie et ne se réaliserait pas. Mais ça a été très correctement administré. Les budgets ont été, dans l'ensemble, respectés. Et ce n'est pas une fantaisie. Voilà.
Il y a un autre nom, d'ailleurs, qu'on n'a pas prononcé, qu'il faudrait peut-être prononcer avant la fin de cette émission, c'est celui d'Émile Biasini,
oui,
qui avait joué un rôle important et qui avait été secrétaire d'État, chargé des grands travaux. Est-ce que ça avait joué un rôle important? Puisque vous évoquiez la question de la structure administrative, on est dans l'atelier du pouvoir, ça compte. Non, je vous vois pas forcément d'accord, Robert Lyon.
Je l'ai bien connu et j'ai bien connu son arrivée à Paris pour s'occuper de ces sujets. Sa vraie gloire, c'est d'avoir mené à bien le projet du Grand Louvre, dont il avait la responsabilité. Il a joué un rôle dans le choix de l'architecte, I.M. Pei, qui a été décidé effectivement sans concours, c'est le seul, par le président de la République, et il a été un bon maître d'ouvrage sur un projet très compliqué. Il a résisté à la polémique que vous savez, il a résisté à un monsieur qui s'appelait Édouard Balladur, qui a été ministre d'État des Finances pendant la cohabitation 86-87, qui est venu, figurez-vous, se réinstaller dans le Louvre, ce qu'on appelait Rivoli, alors que Bérégovoy l'avait, pour la séquence des grands projets, évacué avant, et qui s'est constamment opposé à la conduite de ce chantier sous ses yeux. Ensuite, Biasini plus tard, Émile Biasini, a été secrétaire d'État. Il n'a pas réussi à mener à bien le projet de Palais des Congrès, là où aujourd'hui il y a le musée du Quai Branly. Mais sa grande heure de gloire, c'est le Louvre. On le doit vraiment à Émile Biasini.
Laurent Martin, ouais. Est-ce que vous pourriez dire que l'arrêt des grands travaux sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, elle traduit aussi une évolution de la Ve République qu'on pourrait résumer de la manière suivante. En gros, à grand président, grand projet, à petit président, petit projet ou pas de projet du tout.
Je ne sais pas s'il faudrait qualifier Sarkozy ou Hollande de petit président. Mais c'est vrai que dans le système de la Ve République, il ne peut pas y avoir de grande politique culturelle, encore une fois, quelle que soit, voilà, s'il n'y a pas une impulsion forte du président et un lien et une confiance forte entre le président et le ministre de la Culture. Il y a eu une grande politique culturelle dans les années 60. Grâce à ce lien étroit entre De Gaulle et Malraux. De Gaulle qui ne s'intéressait guère aux grands projets.
D'ailleurs, il n'y a pas de projet gaullien.
Non, il y a quand même les maisons de la culture.
Maisons de la culture.
Les maisons de la culture.
Décentralisées.
Décentralisées. D'ailleurs, là, on a un beau fil conducteur parce que Émile Biasini, on le retrouve dans les années 60 dans la programmation des maisons de la culture et on
il
le retrouve
directeur
dans les années 80.
Du théâtre et des maisons de la culture
donc
sous Malraux.
Il y a aussi une continuité du personnel, je dirais, politique
et
administratif qui est intéressante. Mais donc, voilà, ce lien très fort entre Mitterrand et Malraux explique en partie, en tout cas, cette grande politique des années 60 et le lien très fort entre Mitterrand et Jacques Lang explique la grande politique des années 80. Donc aujourd'hui, effectivement, par contraste, on observe effectivement que les ministres de la Culture qui se succèdent n'ont pas la dimension, la stature et la durée aussi de leurs prédécesseurs et que les présidents n'ont pas manifesté un grand intérêt, disons, pour les affaires culturelles.
Dernière question avant
ni
de
pour l'architecture.
Dernière ni question avant de nous séparer. Robert Lyon, quel grand projet aurait du sens aujourd'hui, d'après vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont restées dans les cartons, qu'on n'a pas vues, et qui pourraient avoir du sens par rapport à la signification que leur confèrent les présidents de la République, à votre avis, et par rapport aux enjeux actuels du pays?
Alors moi, je pense qu'il faudrait imaginer quelque chose qui soit à la fois populaire et spectaculaire autour du thème de l'écologie, qui est le grand sujet d'avenir pour notre pays, qui serait pas nécessairement dans Paris, qui serait pas nécessairement concentré en un lieu, mais qui serait un ensemble de réalisations exemplaires, ouvertes au public, aussi démocratiques que possible, sur le thème que je viens de dire.
Laurent Martin, une suggestion.
Ce projet, en fait, il existe déjà en grande partie, puisque c'est l'exposition universelle. Le projet d'exposition universelle à Paris en 2025, ça intègre cette dimension écologique, et c'est bien, d'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce projet d'exposition, mais c'est à la fois un projet très centralisé, très parisien, etc., et en même temps un projet qui est pensé à l'échelle nationale, avec effectivement toute une série d'activités qui sont prévues dans les grandes métropoles régionales. Donc, Je ne sais pas si nous obtiendrons cette exposition universelle, mais c'est, à mon avis, le grand projet culturel à l'horizon des années 2020.
Très bien.
Merci, merci beaucoup. C'est la fin de cet atelier du pouvoir, déjà. Un grand merci à tous les trois, Adrien Fauve, Robert Lyon et Laurent Martin. C'était donc l'Atelier du Pouvoir, une émission de Vincent Martini et Thomas Vider, préparée par Cyril Baer, réalisée par Doria Zénine. À la technique aujourd'hui, Jean-Richard Dufour. Comme chaque semaine, vous nous retrouvez en podcast sur le site de France Culture, mais aussi sur Facebook et puis sur Twitter, Atelier Pouvoir. Un dernier mot pour vous dire que demain, Jean Deloisy vous donne rendez-vous avec ses regardeurs dans le cadre de notre partenariat avec le musée du Quai Branly pour ses 10 ans. C'est demain après-midi, mais tout de suite, il est 13h30. Et comme chaque samedi, passe maintenant à Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Très bon week-end à tous sur France Culture. Thank you.